Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Dans tous ses états.
Vous avez vu cette nouvelle, elle est à la fois troublante, choquante, mais pas nécessairement surprenante avec tout ce qu'on voit dans les derniers mois. C'est le fait que près de la moitié des élèves de secondaire 5, l'an passé, ont échoué l'examen de français écrit, là où ils doivent se soumettre. Alors, en gros, pour pouvoir sortir du secondaire, il faut passer cet examen-là. C'est des chiffres qui montrent des taux d'échec en forte hausse, presque partout au Québec. Est-ce que c'est parce qu'on a changé l'examen? Est-ce que c'est parce que, encore là, à la suite de nombreuses déformes de l'éducation, c'est une compétition vers le bas? Il y a problème, il y a péril en la demeure. Le ministre Bernard Drainville a dit qu'il était inquiet. Mais pour aller au fond de l'affaire, puis peut-être comprendre véritablement la cause des choses, mais parlons-en avec Martin Maltais, qui est professeur en financement et politique de l'éducation à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, M. Maltais.
Bonjour, Guillaume. Comment ça va?
Très bien, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous exactement là, en quoi les chiffres d'échec de cette année sont différents de ceux des années précédentes.
Ça faisait quand même un certain temps qu'il n'y avait pas eu d'examen standardisé de la part du ministère. Ça datait d'avant la pandémie. Là, on a recommencé à avoir un examen standardisé, puis... Le ministre avait décidé que la valeur de cette évaluation-là représenterait 20 % de la note au lieu de 50 parce que on s'attendait à ce qu'il y ait un effet lié à la pandémie. Tout le monde l'observait sur le terrain. On a quand même dû enseigner à distance dans des conditions assez précaires pendant un certain temps. Puis les gens ont vécu un paquet de choses pendant cette période-là. Alors, c'est clair qu'il y avait des retards d'apprentissage à l'égard desquels plusieurs de mes collègues et moi, on a déjà sonné l'alerte.
Mais là, près de la moitié qui sont en échec.
Ben, ils sont en échec pour l'examen, on s'entend. Là, pour ce qui est de la note globale, comme elle représente, cet examen-là représente 20 % au lieu de 50 %, on n'est pas à la même place. Mais moi, je nous inviterais à une certaine réserve là-dessus. J'écoutais notre collègue là, Richard Martineau là, ce matin, là, puis je pense qu'il faut un peu gérer notre gaz égal, là, je dirais ça comme ça. Parce que la vraie lecture, on va l'avoir lors de la prochaine évaluation en juin prochain. Là. Et là, ça va être l'automne prochain. C'est normal qu'on ait observé une baisse des taux de réussite en langue française. Puis on va probablement l'observer dans les taux de diplomation aussi. Là. Il va y avoir un effet. Là. Et ça s'observe dans la plupart des pays. Même la situation aux États-Unis est encore plus catastrophique. Là. Puis lorsqu'on dit des choses, comme on disait ce matin, là, qu'on forme une génération d'ignorants, là, je pense qu'il faut, il faut se rappeler là, qu'au Québec, là, à l'aube des années 60, là, c'était 13 % des francophones qui terminaient leur 11e année primaire. Là. Et là, si vous prenez là, n'importe quel cadre, là, dans toute la période des années 70-80, c'était tous des gens qui faisaient 4 à 5 cours par ligne. Là. Fait que, à un moment donné, là, il y avait une très petite élite qui écrivait très bien en français là, dans toute cette période-là. Puis au Québec, le niveau de littératie sur l'ensemble de la période il s'est amélioré.
Donc, OK, mais attendez, professeur Maltais, faisons la part des choses. Là.
Ouais, c'est ça.
Il est évident que, en tout cas, ce serait dramatique s'il ne fallait pas que ce soit ça, que l'habilité généralisée de maîtriser la langue est plus grande aujourd'hui que dans les années 60, où très peu de gens fréquentaient l'école à tout le moins aussi longtemps. Là.
Exact.
Une fois qu'on a établi ça, là, je ne suis pas certain que 1960 ou 1950 soient un bon barème. Si la cause, c'est la pandémie, 1960 n'est pas important ici dans notre réflexion. Là.
Alors, tout à fait.
Alors, revenons sur il y a, disons, 5 ans, la chute par rapport à avant-pandémie, elle est de combien? Est-ce qu'elle est majeure? Et si c'est la pandémie qui est la cause, est-ce qu'on peut imaginer qu'une fois passée la vague de la pandémie et ses effets, on reviendrait à ce qu'étaient les scores d'avant la pandémie?
Bien, c'est exactement pour ça que moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut attendre de voir la prochaine lecture. Ceci dit, en attendant, il faut pas ne rien faire. Là. Il faut que l'ensemble des acteurs du milieu scolaire se mobilisent autour des jeunes. Puis avant la pandémie, puis encore aujourd'hui, il y a des défis qui existent concernant la langue française. dont il faut parler. Là. On peut bien parler de l'épreuve unique, mais la question des garçons puis des filles, puis des aspirations qu'on a envers les garçons en général dans notre société, puis c'est pas vrai que c'est juste une question du milieu scolaire. Là. Les parents, on doit, nous, là, comme parents, là, se dire qu'on doit avoir des aspirations scolaires égales envers les garçons puis envers les filles. Or, on n'a pas des attentes équivalentes envers les garçons qu'envers les filles dans la plupart des familles au Québec.
Et si attendez, Martin Maltais, qu'est-ce que vous voulez dire par les parents n'ont pas les mêmes aspirations par rapport aux Français en fonction de leur garçon ou de leur fille?
Je vais vous parler d'un texte qui a été publié il y a une couple d'années par Pierre W. Bélanger. Puis qui n'a pas été publié parce qu'il est décédé avant d'un ACV, mais il faisait la corrélation sur le long terme entre les aspirations scolaires des parents et le niveau de diplomation ou la décision de fréquenter l'université chez les enfants. Et s'il y a un endroit où il y a une corrélation directe, c'est l'indicateur le plus clair.
Là-dessus, on s'entend. Là, de toute la bouillie pour les chats qui se jase en éducation, à la fin, là, ce qui fait le ménage dans tout, c'est le niveau d'éducation de la mère, notamment.
Ouais.
Mais là,
en fait, le niveau d'éducation de la mère et du père, ça, c'est un mythe, c'est le même effet. Il y a un même effet pour le niveau d'éducation de la mère et du père, mais ce qui est clair, c'est que les aspirations, non pas le niveau d'éducation, là, même si les gens sont sous-scolarisés dans une famille où ils n'ont pas de diplôme universitaire, s'ils ont des attentes élevées envers leurs enfants à l'âge de 5 ans, ces enfants-là se comportent généralement pour atteindre les cibles 20 ans plus tard. On l'observe dans la plupart des enquêtes longitudinales qui ont été faites, et on observe au Québec un écart entre les aspirations scolaires des enfants, entre les garçons et les filles. Et c'est plus vrai dans les familles monoparentales, cet écart-là est encore plus grand.
Mais je veux que vous poussiez ça plus loin, là. Ce que vous nous dites, c'est comme si les parents au Québec, on parle de manière évidemment très générale, auraient des attentes scolaires ou professionnelles plus grandes pour leurs filles que leurs fils. Je suis pas sûr de vous suivre. Expliquez-nous ça.
Je vous dis ça très clairement. Là. Dans les enquêtes qu'on faisait là, il y a une vingtaine d'années, là, au tournant 2000 avec Pierre W. Bélanger, là, ce qu'on observait souvent, là, je vous le caricature, là, puis je veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu là, en disant ça, là, mais je vous caricature l'image. Il y a des contextes familiaux où on disait, par exemple, puis c'est souvent des contextes familiaux où les pères étaient complètement absents pour un paquet de raisons. On l'observe dans différentes familles au Québec. Et là, ce qu'on observait des fois, c'était des choses qui ressemblaient à « Toi, tu vas aller à l'école, ma fille, parce que ma fille, elle doit s'en sortir, elle doit s'affranchir des hommes. » Et mon garçon, lui, il fera ce qu'il veut dans la vie. De toute façon, les garçons, ils s'en sortent tout le temps. Alors, vous avez... dans différentes familles au Québec, puis dans ce qu'on observe, là, puis je dis pas que c'est un cas généralisé. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une différence de traitement entre les garçons puis les filles en général. Il faut falloir se donner des aspirations aussi élevées entre les garçons qu'envers les filles. Quand vous regardez l'enquête là, sur les primo-entrants à la maternelle puis leur situation de vulnérabilité, la dernière de 2017 montre qu'il y a un écart important entre les gars puis les filles. Et là, ils sont à la maternelle. Ils sont pas scolarisés, là. C'est pas l'école qui a fait la job, là. On prend une lecture de la situation des enfants quand ils sont à maternelle.
Donc, ce qu'on constate,
c'est la période qui précède.
Donc, on dit souvent, Martin Maltais, que l'école échoue nos garçons. Vous, ce que vous dites, c'est à la maison que le premier échec se vit.
Tout à fait. C'est ce que je vous dis.
Il va falloir s'en reparler. Remarquons ensemble que s'il n'y avait pas de mesure de l'échec, ce serait difficile d'avoir cette conversation-là. Mieux vaut avoir une conversation pas agréable ou difficile sur le taux de non-réussite que de se faire croire qu'on ne réussit pas. Là.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me permettrais d'ajouter juste une petite chose là, pour vos auditeurs. Là. Quand on parle de la petite enfance, là, si on parle d'apprentissage de la lecture, il y a une chose qu'il va falloir faire aussi au Québec, c'est que l'apprentissage de la littératie, c'est plus efficace avec l'approche syllabique. Encore aujourd'hui, dans certaines universités...
Ouais, juste pour qu'on comprenne, là, ce que vous dites en gros, c'est que les techniques de « trouve ton premier... » Cherche tes premières manières toi-même de comprendre, c'est peut-être pas l'idéal, c'est ça? C'est là où vous voulez aller?
Ce que je vous dis, c'est quand les enseignants enseignent avec des mots étiquettes, de reconnaissez le mot, au lieu d'apprendre avec les syllabes. Toi, sur, et là tu vois les lettres, puis tu fais les syllabes. la méthode avec les syllabes, l'approche syllabique est plus efficace que la méthode avec les mots étiquettes. Or, depuis 30 ans au Québec, dans plein de facultés puis d'endroits, on enseigne avec des mots étiquettes. Dans des écoles, on enseigne avec des mots étiquettes et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui croient que c'est la meilleure méthode et qui continuent. Or, toutes les enquêtes qui ont été faites par notamment Stanislas Dehaene en France, là, je pourrais vous envoyer une petite vidéo qui explique tout ça, avec des enquêtes sociologiques, puis des données avec des électrodes branchées sur le cerveau montrent que le circuit neuronal.
Je pense qu'on va falloir qu'on s'en reparle là, parce que c'est effectivement plus large.
Vous avez un écart de 20%. Vous comprenez que vous avez un écart de 20% en littératie. Là. Vous prenez des garçons qui sont en difficulté, vous les amenez ailleurs.
Mais ce que j'entends, professeur Martin Maltais, c'est que ça va nous prendre plus de données probantes pour aligner nos stratégies d'éducation plutôt qu'une seule théorie hégémonique qui semble être reprise loin des données dans nombre de facultés d'éducation. Martin Maltais, je rappelle, vous êtes professeur en financement et politique de l'éducation à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un grand plaisir, Guillaume.
Au plaisir.